c'est tous les mardis à 12h35 sur CFM. Histoire et religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus. Bonjour Bernard Vachereau.
Salut, bonjour.
La semaine dernière, vous êtes arrêté longuement sur l'importance de Alcuin, le conseiller, le fondateur de l'enseignement, ami et confident de Charlemagne.
Ouais.
Ça a beaucoup pesé sur la constitution de, comment dire, des monastères en tant qu'école, finalement.
Oui. Oui. Et non seulement en tant qu'école, mais aussi en tant que...
Éducation populaire, vous allez me dire.
Éducation populaire, justement. Hein ? Non, mais j'en suis parfaitement conscient, je mesure le terme. Mais aussi en tant que new look d'une gestion nouvelle des choses et de la vie.
Oui, on n'ose pas parler de Renaissance, parce que la Renaissance est très datée avec un grand R.
Oui,
mais il y a
oui,
une
oui.
Renaissance à partir de 800.
Et
de...
Ah, complète, hein. Et vous allez savoir, quand je dis new look, nouveau regard sur la gestion de la vie, l'organisation humaine. Alors, justement, c'est cette évolution qui en a forcément amené bien d'autres, qui en ont découlé. Bon, les moines deviennent ainsi non seulement d'excellents agriculteurs, ça c'est leur vocation agricole, mission agricole, mais aussi des administrateurs et des financiers. Et alors, ça paraît un peu bizarre. Et pourtant, non. Eh bien, le choix est excellent, en fait, justement, de confier aux moines la gestion, parce que par vocation et par, on va dire, psyché personnel, le moine est de nature absolument désintéressé. Et il est surtout financièrement. Et cela lui donne, de ce fait, le recul d'esprit nécessaire pour mieux apprécier la réalité des besoins et des situations, car il voit plus loin. Il ne se borne pas à l'entrée de l'argent. Il se dit, pour réaliser tel but, j'ai besoin d'argent, mais c'est dans le but de la réaliser telle action. Hein ? Il voit plus loin que la rentrée d'argent. Alors, il n'en sera de ce fait que plus honnête et beaucoup plus fiable. Donc on lui fait confiance. En échange de cela, eh ben on fait des dons au monastère, des dons qui sont doublés de titres et pouvoirs locaux. Alors, c'est là qu'a commencé une certaine ambiguïté. C'est qu'on leur a donné, par exemple, des titres qui équivalaient à ceux de seigneurs de leur terre. Ça a d'ailleurs dévié plus tard, malheureusement. En droit féodal, parce que la féodalité a eu un droit aussi, hein, cela leur permettra de pouvoir juridiquement mieux protéger les populations dépendantes de leurs terres, car leur autorité juridique sera ainsi mieux assise. Il y a donc un double registre qui permet à la fois de vivre la vocation dans l'esprit des fondateurs du monachisme, Dieu tourné vers Dieu, tout est centré sur Dieu, basé sur la pratique des trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, et d'accomplir ainsi une mission civilisatrice, ora et labora, prix et travail. Cet aspect des choses explique pourquoi, si au début l'idée de Charlemagne n'a pas été couronnée vraiment de succès, on l'a vu avec le concile d'Aix en 817, elle finit pourtant par se développer et prédominer sur tout l'Empire, ce qui a facilité l'expansion des monastères bénédictins. Pensez bien que, devant le succès de la formation des monastères bénédictins et de leur travail, tout le monde a voulu en avoir. Et comme tout le monde a voulu en avoir, eh bien, il y en a eu un peu partout. Alors, c'est là que leur vocation missionnaire s'est accomplie de plus en plus. Le moine est-il un missionnaire? Pas forcément. Et pourtant, oui. Comme on le constate, nous sommes arrivés là à un véritable tournant de l'histoire du monachisme et de l'érémitisme. Ce dernier, je parle de l'érémitisme en disant ce dernier, a évolué d'ailleurs dans un autre sens, conservant son orientation originelle et continuant d'attirer hommes et femmes qui fondèrent de nombreux ermitages durant la période du Haut Moyen-Âge et encore par la suite. D'ailleurs, dans notre région du Quercy quélusien, nous avons des traces de ces ermites. J'en veux, par exemple, quand vous descendez le long de la petite église de Saint-Symphorien vers le cimetière, sur la commune de Quélus, et depuis la Roque, d'ailleurs, en même temps, il y a à droite une grotte, une petite grotte. Elle a été retravaillée de main d'homme et on aperçoit en bas dans la roche, sur la droite, des traces de fermeture. C'était justement la trace d'une porte de bois, certainement, car la grotte avait été transformée en habitacle d'un ermite à ces époques du 8e et 9e siècle. Alors, cet état de choses va se prolonger, oui, mais sans évolution notoire, du moins pour les moines et leurs monastères. Jusqu'au 11e siècle, qui verra apparaître Saint-Bruno en 1030 ou 1035, jusque vers 1101. Alors Saint-Bruno a été un immense restaurateur de la vie érémitique. Il a créé la Grande Chartreuse en 1084, donc nord-est de la France, création qui va révolutionner la vie érémitique et marquer la vie monastique. L'ordre des Chartreux conjugue en effet monachisme et érémitisme. Alors, par beaucoup d'aspects, du moine par exemple dans la Grande Chartreuse, il rappelle la vocation première des ermites. Ce rappel ne fut pas inutile, car grands furent les risques pour les moines et les monastères d'être tentés de dévier vers le pouvoir et l'argent, même si jusque-là ils n'avaient pas succombé au chant des sirènes et du pouvoir de l'argent. En effet, certaines abbayes devinrent presque dès leur fondation assez riches, voire très riches. Ce fut le cas de notamment l'abbaye de Cluny, abbaye fondée le 11 septembre 910 par Guillaume, duc d'Aquitaine, qui la soumit directement à la papauté romaine. Et oui, il fallait toujours éviter que les évêques ne veuillent mettre la main mise sur la finance de Cluny. Donc, voilà. Et parmi les abbés de Cluny, on distingue notamment Saint Audon, qui est moine de 926 à 942. Alors, à partir de là, ont été créées de très nombreuses communautés clunisiennes. La grande église abbatiale de Cluny fut édifiée à partir de 1088 et témoigne de ce que fut la puissance de cette abbaye et de son rayonnement. Alors, cette puissance, eh bien, forcément, il y a eu des jaloux. Et oui, évidemment. Donc, elle a été très critiquée, cette puissance, par de nombreux observateurs de l'époque. Et le plus virulent d'entre eux fut Adal Béron, évêque de Laon, dans l'Aisne, en France, bien sûr, entre 977 et 1025. Adal Béron, évêque de Laon, dénonce l'état de richesse de Cluny et reproche à l'abbé de Cluny de régner en seigneur à visée politique et fort peu religieuse, non seulement sur les monastères de sa congrégation, mais aussi sur les terres et les habitants qui en dépendront. Il nomme l'abbé qui fut Odilon de Cluny. Alors, à ne pas confondre avec Odon de Cluny, hein, surtout. Odilon de Cluny, abbé de 994 à 1049, et le dénonce avec virulence comme voulant s'instaurer en petit roi au royaume des Capétiens et surtout au royaume du très Capétien Robert le Pieux.
On retrouve Bernard Vachereau dans 2 minutes pour cette histoire des monastères.
Où allez-vous, papa loup? Chapeau mou, médaille au cou. Vous a-t-on nommé shérif des montagnes et des récifs? Non, mon fils, j'ai pris un bain, chaussée, guêtre, canne en main. Je m'en vais rendre hommage au roi. Si tu veux, viens avec moi. En Orient n'est qu'un cajou. Moi, je ne connais roi que vous. Peigne plutôt tes poils fous et suis-moi à pas de loup. Ils ont marché 4 lieues, arrivés près d'un torrent, sauvage et débordant, de cris et de chants d'adieu. Bonjour sire, c'est moi le loup. Voyez-vous, m'entendez-vous? Je suis venu à travers bois vous saluer comme il se doit. Il se tient droit, salut l'ours, qui a la patte dans le piège, plein de sang dessus la mousse, tombe la première neige. Le petit loup est ému, il voudrait rentrer chez lui. Le gros ours, le gros poilu, prend sa main et dit merci. Ils sont revenus de nuit à travers boulot joli. Le plus vieux marchait devant et pleurait abondamment.
Sur CFM, la mort de l'ours, Alain Souchon avec Bernard Vacheron, on est en train d'évoquer la Bastia d'Odilon qui a permis à la communauté cludisienne d'être indépendante de l'évêque de Mâcon.
Eh oui, parce que nous sommes toujours dans le même domaine de la tentation. Simon, le magicien, aurait très bien pu vivre aussi à cette époque-là, qui sait s'il n'y eut pas quelques réincarnations. Bon, une toute plaisanterie mise dehors, nous allons évoquer très rapidement, un personnage qui apparaît à cette époque-là, c'est Pierre l'Ermite. Pierre l'Ermite mérite-t-il vraiment son nom d'ermite ou son surnom d'ermite? Car on ignore totalement s'il fut réellement ermite ou moine. On sait qu'il a prêché de manière très enflammée, pour le moins qu'on puisse dire, la croisade voulue par le pape Urbain II en 1095. Cette croisade, quoique prêchée avec un zèle des plus fanatiques, fut un colossal échec, car a été totalement écrasée par les Turcs en 1096. D'ailleurs, soit dit en passant, n'oublions pas que cette période de la fin du XIe siècle a été, et là j'ouvre une parenthèse, mais c'est une de mes manies chez moi, a été la grande période de la secte des Hachichines, notamment avec Hassan. Hassan, qui était le vieux de la montagne, hein, et qui, en 1092, avait lancé une grande mission contre les Seldjoukides et autres, régnants arabes. Or, la papauté avait profité de ces circonstances pour lancer en 1095, c'est-à-dire 3 ans plus tard, cette croisade. C'est Pierre l'Ermite qui l'a donc prêché, avec un zèle plus enflammé qu'intelligent. Le résultat, eh bien, c'est que mal organisée, mal faite, cette croisade a été un échec. Alors, au cours de ce XIe siècle, avec des hommes comme Saint Bruno, on assiste à la naissance d'un vaste courant de réformes sur l'ensemble de l'Occident latin. Ce courant est particulièrement perceptible dans les monastères où les moines veulent la séparation entre le sacré et le profane. Il y a toujours là cette idée, précisément, de rester quelque part de pieux laïcs. On est toujours dans cette perspective. Cela est d'ailleurs dans l'air du temps, car dans les institutions civiles, bourgeois et citadins commencent eux aussi à réclamer choses pareilles. Cela aboutira plus tard à la création des communes franches que l'on verra surtout pointer entre les XIIe et XIIIe siècles. Le mouvement se dessine déjà au cours du XIe siècle et les moines sont loin d'y être étrangers. Là encore, on perçoit le rôle de précurseur qui a été joué par les moines dans l'évolution des sociétés et l'organisation sociale et indirectement politique. C'est intéressant de voir que les moines, en somme, ont quelque peu préfiguré la séparation entre laïcité et religion. Non mais, c'est à notre époque maintenant un point très important, il me semble, de le souligner. Alors, au plan de la vie monastique et de celle du clergé diocésain, les voilà qui font tout pour instaurer, alors ça c'est très curieux, le célibat à l'ensemble du clergé, et en ce sens, ils préparent les décisions du Concile Latran de 1139. Bon, mais leurs réformes ne s'arrêtèrent pas là, et touchèrent à la liturgie, à l'élaboration des rites, et surtout à l'étude de la symbolique, liturgique, artistique et architecturale. N'oublions pas que les compagnons, par exemple, du Moyen-Âge, et Raoul Vergès, dans ses ouvrages, le dit fort bien d'ailleurs, les compagnons viendront perfectionner dans les monastères leur connaissance de l'ésotérisme et du symbolisme chrétien. Alors, là-dessus, on va dire que dans le milieu rural, ils ont organisé la vie agricole et la vie spirituelle, en particulier les paroisses. les paroisses rurales qui commencent d'apparaître en Gaule à partir du IVe siècle, sous la direction des monastères, ainsi que dans les cités, à tel point qu'on se demande si antérieurement il existait des paroisses. Il existait des communautés chrétiennes structurées, mais non pas organisées en paroisses. Alors, au IVe siècle, les paroisses commencent donc à se structurer dans les villes et dans les cités, puis progressivement d'apparaître au cours des 5e et 6e siècles en milieu rural. Mais c'est surtout au cours du 7e siècle que les paroisses s'organisent réellement en milieu rural. Ainsi, le chanoine Pierre Gaine, auteur du Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban, aux éditions de l'association Montmurat, Montoriol, Montauban 1978, signale à la page 165, à la fin de l'article consacré à Montpezat de Quercy, qu'au hameau de Perge-Basse, à l'emplacement de l'église disparue de Saint-Vincent, furent retrouvés des sarcophages attestant la présence d'une communauté chrétienne en ces lieux entre les 5e et 8e siècles. Et des recherches archéologiques menées en Tarn-et-Garonne montrent que ce fut un cas très peu rare, au contraire fréquent. Alors, le terme de paroisse vient du grec paroikia.
Oula, mais vous développez une nouvelle idée, là. Vous allez nous parler des paroisses.
Forcément, la semaine... C'est lié avec les moines.
C'est forcément la semaine prochaine, alors, Bernard.
Eh oui, mon ami.
Désolé.
À bientôt.
C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vacherot, curé de Caylus.